et bienvenue sur le podcast Expat Families. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va être un monologue, donc j'espère que ça va pas être trop ennuyeux. Mais surtout, en fait, j'avais envie de faire une sorte de résumé, égoïstement pour moi, de la première année de vie de mon fils. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy. J'habite à Manhattan Beach, près de Los Angeles, en Californie. Et j'ai la chance d'être mariée avec Mac. Et on a eu notre premier enfant, Pierre, l'année dernière. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de faire un récap de cette première année qui a été forte en émotion, mais aussi en challenge. Donc j'ai résumé en 4 points, en fait. Je vais faire ça quand même assez rapidement. Qui se base sur mon expérience personnelle, bien entendu. J'imagine que c'est propre à chaque individu sur Terre. Mais voilà, moi, si je devais retenir que 4 choses de cette première année, ce seraient les suivantes. Et oui, elles sont classées par ordre d'importance selon moi. Alors, du coup, le point numéro 1. Je dirais que le postpartum, ça ne dure pas que 6 semaines. Et je dis 6 semaines parce que c'est en général le temps entre votre accouchement et votre rendez-vous follow-up chez votre gynéco pour s'assurer que tout s'est bien remis en place, je dirais. Mais je dirais que dans mon cas, ça a duré beaucoup plus longtemps que 6 semaines. J'ai accouché en août et je pense que j'ai eu des variantes comme ça jusqu'à février. Voilà, je pense qu'à partir de février, j'étais guérie, je dirais, de mon accouchement. Mais ouais, comment il s'est traduit mon postpartum, il s'est traduit par énormément de pleurs. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de super... Si, je suis sensible quand même, mais pas au point de chialer tous les jours pour des bêtises. Et je pense que le pire, ça a été quand je suis retournée au travail, sachant quand même que j'ai eu un beau congé parental, j'irai en étant quand même aux États-Unis. C'est-à-dire que je suis partie en congé la semaine avant ma due date et je suis retournée travailler mi-novembre. Donc, attendez, je fais le calcul. Je vais couper mon temps. Donc voilà, donc un petit peu plus de 3 mois quand même, ce qui est quand même très très bien pour les États-Unis. Et je me souviens avoir eu genre un breakdown mental parce que déjà donc en décembre, quand même franchement, et pour le coup on était quand même super bien organisé avec Mac. C'est-à-dire que moi j'ai repris mi-novembre, ensuite il y a eu Thanksgiving, donc je suis repris mi-novembre, mais j'ai quand même bossé, je pense, en tout et pour tout, au mois de novembre, j'ai dû bosser 7 à 10 jours, quoi. Donc quand même, on n'était pas sur une grosse productivité de malade. Et ensuite, en décembre, c'est Mac qui avait pris un congé parental. Donc du coup, on avait essayé de faire les choses quand même progressivement. Et en fait, moi, dans mon métier, parce que j'étais quand même comptable, ce qui paraît assez fou étant donné ma faculté avec les chiffres, donc décembre, janvier, février, c'est quand même extrêmement busy dans mon service, quoi. Et ouais, donc déjà en décembre, ça allait parce que je savais qu'il était avec Mac, mais genre j'avais cette vieille jalousie à me dire « purée, Mac il est en train de passer tout son temps avec le bébé ». Et le pire, ça a été en janvier parce que, en fait, on avait pris la décision de partager une nanny avec un autre couple. Donc du coup, moi je m'organisais de la sorte où je me réveillais très tôt le matin, ce qui me permettait ensuite de partir très tôt l'après-midi. Enfin, ça a du sens. Donc je me rappelle, en fait, je me réveillais, je tirais mon lait, je réveillais Pierre, je lui donnais un biberon et après c'est Mac qui prenait le relais. Donc je voyais 30 minutes le matin et ensuite le soir j'allais le récupérer chez le couple qui accueillait en fait les deux enfants chez eux. Donc je récupérais Pierre, je le ramenais à la maison, on lui donnait à manger parce qu'il avait 5-6 mois, donc on avait démarré déjà les purées et compagnie. Et après, bah, bain et au dodo, quoi. Donc en gros, en tout et pour tout, chaque jour, je le voyais plus qu'une heure. Et ça me dévastait le cœur, quoi. Ça a été vraiment très compliqué de passer de 24 heures sur 24 à une heure par jour, quoi. Et je le vivais super mal. Et à partir de février, je me souviens, une fois qu'on a eu un séjour avec Mac en Arizona pour aller voir sa grand-mère... Je pense que c'est aussi là où j'ai arrêté officiellement l'allaitement et tout. Et j'étais plus dans cette spirale à me focaliser à 3000% sur Pierre. Et j'ai commencé à reprendre un peu ma vie en main, je dirais. Mais ouais, enfin vraiment, enfin aujourd'hui je sais et le je sais que mon postpartum, même en étant quelqu'un que quand même de relativement joyeux tous les jours, la chute d'hormones est compliquée ouais, et ça peut arriver à n'importe qui quoi. Donc ouais, soyez vigilants par rapport à ça et surtout très patient. Je pense que c'est aussi la façon dont je conclurai ce premier point. Du coup, mon deuxième point, je dirais que ce serait de ne pas se fixer trop d'objectifs. Pourquoi? Parce que je me souviens quand j'étais enceinte, et même avant, hein, je veux dire, tu sais, t'es un peu bébête, et tu te dis, oh, moi je vais allaiter, de toute façon, ça va, ça peut pas être si compliqué que ça, c'est naturel, ça va bien se passer. Et puis je me disais aussi, oh, bah vous savez, moi si mon gamin, voilà, je le mets au lit et qu'il a besoin de pleurer, bah je le laisserai pleurer et puis il va bien finir par s'endormir, quoi. Enfin vraiment, j'étais partie dans des trucs un peu comme ça. Et grave erreur de se dire déjà, bon, je partais quand même sereine, mais voilà, je me disais, oh, ça va. Je veux dire, les nanas se font un pataquès, personne n'en est mort, moi je vais y arriver. Et je ne sais pas comment vous dire, l'allaitement. Tant que vous l'avez pas vécu, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas compliqué. J'adore me dire ça, mais c'est une réalité. Et ouais, j'étais persuadée que ça allait bien se passer. Moi, de mon côté, oui, ça se passait bien, mais je dirais que c'est du côté de Pierre où c'était toujours un petit peu plus compliqué parce que donc à la naissance, on s'est rendu compte 2-3 jours après qu'il avait un problème de latch. Et en fait, une semaine après, quand on est allé chez le pédiatre nous a dit franchement, voilà, moi je suis pas pour médicalisation et pratique chirurgicale sur les nourrissons, mais là, votre fils, il a un sacré frein de langue. Et il m'a dit franchement, en général, je passe outre parce que c'est pas gênant gênant sur le futur, mais là, le vôtre, il a vraiment un frein qui est assez important. En général, je recommande sur un bébé sur 8. Et je vous recommande fortement, surtout si vous voulez continuer votre allaitement, d'aller lui faire couper son frein de langue. Donc on est quand même à une semaine. C'est-à-dire que moi, donc du coup, quand j'étais à l'hôpital et que je voyais que, ouais, il pleurait parce qu'il avait faim, il n'arrivait pas à le prendre, il se frustrait. Moi, ça me frustrait. Enfin, je veux dire, t'es une nouvelle mère, tu sais pas comment faire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas inné. Et je sais qu'à la NYU, ils ont été très sympas et ils m'ont directement proposé un tire-lait pour pouvoir le nourrir. Ils avaient compris que l'allaitement, c'était quelque chose voilà, que j'avais vraiment envie de tester. Et j'ai vraiment apprécié d'ailleurs qu'ils me proposent ça plutôt que de partir directement sur un biberon. Et je sais qu'ils font pas la même démarche en France, ce que je trouve vraiment dommage. Et donc ouais, je suis repartie à la maison avec ma machine Medela de compétition de l'hôpital que j'ai loué pendant 15 jours. Et après, je suis partie, quand j'ai eu ma montée de lait, je suis partie directement sur la petite pompe là, qui est offerte avec ton plan santé aux US. Ensuite, il a eu son frein de langue de coupé. Et après ça, il a fallu quand même qu'on aille faire différents cours de lactation pour qu'il essaye en fait de corriger son latch. Et franchement, enfin, j'ai rien contre les consultantes en lactation, mais t'as l'impression, c'est nana. Enfin, quand tu vas les voir, elles ont pour objectif de te faire allaiter pendant 2-3 ans, quoi. Donc, moi, à chaque fois, j'arrivais, genre, pleine de ressources. J'avais acheté le petit le protection machin, là. Le petit truc en silicone que vous mettez entre le sein et l'enfant, parce que moi, il me faisait vraiment trop, trop mal. Et à chaque fois, c'était genre, oh, yeah, it's nice, but. Et genre, à chaque fois, non, il fallait en revenir au truc qui était vraiment super douloureux. Et je voyais qu'il se frustrait et franchement j'ai eu un jour où ça m'a tellement frustrée que j'ai dû le poser, que j'ai chialé et je me suis dit franchement ouais ça va être compliqué. Et j'ai regardé mon tire-lait qui me donnait quand même ok c'est plus de travail mais je me disais c'est quand même tu vois je sais exactement la quantité qu'il prend, à quelle heure je peux c'est et moi j'ai besoin en fait je suis quelqu'un quand même de super structuré, voire un peu trop. Et j'adorais savoir exactement quel montant il recevait et quand est-ce qu'il allait boire et pouvoir le mettre dans une routine, un cycle comme ça de nourriture et de biberon, en sachant quand même que je lui offrais tout de même bah, mon lait, quoi. Donc c'était quand même pas négligeable. Et en fait, 3-4 semaines après sa naissance, où je voyais qu'en fait on n'avançait pas sur l'allaitement à même le sein, c'est là où j'ai dû prendre la décision en fait d'être exclusivement au tire-lait. Et ça a été extrêmement pénible parce que je lisais que la composition du lait, elle allait changer en fonction du latch de ton enfant sur ton corps. Je sais pas, j'avais un sentiment de culpabilité à arrêter d'essayer de lui filer mon lait à même mon corps plutôt que à travers le biais d'une machine. Ouais, donc tellement de culpabilité à me dire dont la substance de mon lait, elle va pas être modelable, ou de me dire oh, je suis en train de gaspiller du pot à pot et ce genre de choses. Et ouais, ça a été extrêmement pénible et j'en ai beaucoup pleuré parce que forcément, les gens sont très... les gens sont... Dès que vous avez un enfant, ils se permettent des questions. c'est assez incroyable. Et oui, donc c'est oui, alors comment tu le nourris? Et je vais me dire, ça va quoi. Je veux dire... Enfin bref, c'est pas le débat. Mais ouais, donc l'allaitement, ça a été mine de rien assez compliqué. Je suis quand même contente d'avoir tenu mine de rien 6 mois en tire-lait. Ça a été extrêmement long. Et franchement, si j'en ai un deuxième, je sais pas si... c'est là en fait où mon point arrive, c'est que par exemple pour un deuxième, je me mettrai pas un objectif d'allaitement pendant 6 mois. J'ai dit à Mac, franchement, si on en a un deuxième, et... parce que oui, pareil, la culpabilité... vous voyez, enfin, Mac, il est quand même super supportif, enfin, quelle qu'en soit la situation, mais il me disait quand même, et les études le montrent, le lait maternel, ça reste quand même, comment on appelle ça, l'aliment. Non, c'est pas un aliment, mais bref, enfin, la chose qui est la plus nutritive pour son enfant. Donc, il n'était pas chaud pour le lait en poudre. Donc, du coup, moi, ça me poussait à me dépasser pour subvenir aux besoins de mon enfant. Et donc, du coup, je lui ai dit direct, je lui ai dit, écoute, moi, le deuxième, enfin, je me mettrai pas 6 mois de tirage de lait ou d'allaitement, c'est énormément d'énergie et voilà, j'ai envie que tu me donnes au minimum 2 mois, je me donnerai 2 mois et me dis rien. Me dis pas c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien, juste me dis rien, c'est mon corps, c'est mon esprit, c'est ma santé mentale et ouais, t'as pas de sein, tu te décoiffes. Enfin, c'est vrai que j'aime pas en général... me mettre sur des préjugés comme ça, mais et je sais que c'était pas du tout son attention, mais ouais, mine de rien, la moindre petite remarque, et ça devient obsessionnel le lait, hein. Franchement, c'est-à-dire, je sais pas si c'est quand tu tires ton lait ou juste de manière naturelle, mais c'est une obsession, parce que nourrir ton enfant et t'assurer de la bonne suite de la gestion du truc, ça, ouais, ça devient obsessionnel. Et tout est assujetti du coup à une forte culpabilité. Le sommeil de son enfant, c'est pas facile. Vous voyez, parce que... oui, donc comme je vous le disais, oui, j'étais bourrée de bêtises à me dire « Bon, bah, ça va, il va pleurer, personne n'en est mort de pleurer. » Mais quand c'est ton enfant... Moi, je me rappelle, hein, quand il est né et qu'on l'a foutu dans son petit truc là en plastique, son bassinette... Moi, j'ai pas dormi ces deux premières nuits avec lui, j'ai pas dormi, je l'ai pas foutu comme j'aurais dû peut-être, je l'ai pas foutu dans la maternité. Enfin, je l'ai pas foutu là où on met tous les enfants pour pouvoir se reposer, moi il était avec moi à l'hôpital. Et je me souviens que le moindre petit bruit, le moindre son qu'il émettait, ça me réveillait ou ça me stressait. Mais alors quand il s'est mis à pleurer les gars, je sais pas si... Je sais pas si on se rend compte, moi en tout cas, quand Pierre il pleure, ça m'irrisse le poil. J'ai l'impression qu'on est en train de passer ses ongles sur un tableau en craie ou je sais pas quoi, mais le bruit est tellement strident dans mon cerveau que c'est inhumain pour moi et inconcevable de le laisser pleurer. Voilà, ça c'est un truc que je ne savais pas. Après, on a eu énormément de chance parce qu'une fois qu'on a géré son alimentation de manière régulière à travers le tire-lait et compagnie, franchement, il a bien dormi. Hein. Enfin, après, il y a aussi le concept que je n'ai jamais compris de faire ses nuits. Moi, j'ai jamais compris ce principe de faire ses nuits parce que est-ce qu'on parle de faire ses nuits? Est-ce qu'on parle de 12 heures? Est-ce qu'on parle de 8 heures de sommeil? Est-ce qu'on parle de 7 heures de sommeil? Est-ce qu'on parle comme un adulte qui reste couché à minuit et qui se réveillerait le matin à 6h30? voilà, moi c'était totalement abstrait cette histoire de est-ce qu'il fait ses nuits, et je sais que beaucoup de personnes m'ont posé des questions comme ça et j'étais incapable de leur répondre. Moi, si je me souviens bien, Pierre il s'est réveillé, il se réveillait une à deux fois par nuit dès qu'il a eu genre un mois. Il s'est réveillé, je pense qu'il se réveillait à minuit. Et ensuite, il se réveillait entre 3 et 4 heures du matin. Et après, il se réveillait genre le matin comme nous à 7 ou 8 heures. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça super compliqué. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir eu un bébé qui est un gros dormeur la nuit. Et je me souviens qu'on traînait un peu sur... parce qu'on a fait du sleep training. Donc le sleep training, parce que je pense que c'est pas nécessairement connu dans d'autres pays. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est différentes doctrines, différentes méthodes qui se mettent en place, notamment aux États-Unis, où en fait on prône l'éducation du sommeil chez l'enfant. Donc on a plusieurs grands spécialistes. Il y a la Ferber méthode, je pense que ce qui est d'ailleurs la méthode que nous qu'on a utilisée, où en fait tu vas mettre ton enfant au lit à, je sais pas, à 8 heures, et puis s'il se réveille, et ben tu vas le voir une première fois, tu attends 10 minutes, tu vas le voir, tu vas lui caresser le ventre pendant une minute, tu t'en vas, et puis après tu réitères toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'en fait il s'endorme. Sinon, tu en as des beaucoup plus stricts, comme Dr Cohen, qui est un pédiatre français de base, qui est venu s'installer à New York et qui a monté Tribeca Pediatrics, donc qui est le pédiatre chez qui on est allé. C'est une influence de la Ferber Method, et en fait, ça consiste à ce que tu laisses pleurer ton enfant sans aller le voir, en fait. Donc tu vas le mettre au lit à 7h30, et tu ne reviens pas le voir avant 7h30 le lendemain matin. Donc c'est vrai qu'à chaque visite, il nous rabâchait que bon, bah, il faudrait peut-être commencer à faire le training sur Pierre, et forcément à chaque fois on traînait un peu de la savate parce que voilà, on se disait bon bah ça va, on se réveille une fois dans la nuit, c'est pas la fin du monde, on arrive à gérer. Et donc voilà, à chaque visite ils nous le rabâchaient, et aux 6 mois ils nous ont dit bon, en gros ils nous ont mis une sorte de petit ultimatum à se dire vraiment si vous le faites pas à partir de quand il va avoir 9 mois, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre le sleep training en place. Et donc oui, on l'a fait en janvier. Ça a été intéressant parce que Pierre, donc, il a eu besoin que d'une seule nuit pour comprendre que bon, bah, ça a été, c'était acté, quoi, que la nuit serait faite pour dormir. Quand mars est arrivé et qu'il y a le coronavirus, on est parti à Cape May, donc on est parti de chez nous. Et autant vous dire que je pense qu'il l'a extrêmement mal vécu. Je pense qu'il faisait super froid dans l'appartement. Et donc du coup, il s'est réveillé au moins une fois par nuit, toutes les nuits. Et toutes les nuits, on lui a refilé un biberon. Donc ça a duré jusqu'à juin. Et non, ça a même duré plus longtemps. Hein, parce que donc ensuite, on est rentré dans notre appart pour globalement faire des cartons. Ensuite, on a passé une semaine chez la mère de Mac. Donc pareil, il s'était réveillé. Donc je pense que c'est que récemment, c'est que dès qu'il a passé ses 1 an, où en fait il se réveillait une fois par nuit, on le nourrissait, il se rendormait et puis l'affaire était réglée quoi. Enfin on s'est jamais pris la tête à le dire « Oh là là, laissons-le pleurer 10 minutes, 15 minutes et, ». Et maintenant c'est vraiment de manière exceptionnelle qu'il se réveille la nuit parce qu'il a un truc qui va pas quoi. Mais je veux dire, nous ça nous dérangeait pas encore une fois de se réveiller, de faire des rotations. C'est-à-dire qu'une nuit, je savais que ça allait être moi qui allait me réveiller. Et une nuit, je savais que ça allait être Mac qui allait se réveiller. S'il se réveillait la nuit et qu'il avait faim, c'est qu'il y était... il en avait besoin, je pense. Et puis, maintenant, il fait ses nuits et il n'y a plus aucun problème. Donc, je pense que ça dépend des couples. Je sais qu'il y en a qui font du cododo. Je sais qu'ils font du sleep training. Et je sais qu'il y en a qui font comme nous et qui se réveillent toutes les nuits parce que ça ne les dérange pas. Mais encore une fois, je sais pas, à partir du moment où vous partez du principe que c'est une phase et que ça n'a pas duré très longtemps, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à faire. Et mon dernier point, en fait, du point 2, je sais qu'il dure assez longtemps celui-là, je dirais que c'est la délégation de la charge mentale. En fait, je m'étais pas rendu compte de la charge mentale, en fait, qui est associée à un nouveau-né. Mais les bêtises... Comme par exemple, je sais pas, prendre les rendez-vous chez les pédiatres ou alors faire des recherches. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un... Voilà, encore une fois, je suis peut-être un peu trop structurée et j'aime pas me dire Hakuna Matata, non, moi j'aime bien savoir où je vais. Et je sais que je me suis énormément posé de questions pour Pierre et je me suis énormément documentée. Et en fait, ça me fatiguait quand on me posait la question à savoir, ouais, est-ce que t'as regardé du coup sur internet, ci et ça? Je me suis dit, mais tu sais, tu peux aussi le faire, quoi. Ouais, ça m'énervait un peu et qu'ils prennent pas nécessairement trop de... qui prennent pas le lead sur certains trucs. Je sais que au fur et à mesure, il l'a fait. Ça, ou alors le truc lambda dont on se moque gentiment, mais qui est une réalité, c'est genre... oui, alors où est-ce qu'ils sont, telles et telles affaires, et ce genre de choses. Et vraiment, je m'étais pas rendu compte, je pense, quand on était en couple. Voilà, ça aurait pu être quelque chose qui m'hérissait le poil. Donc, ouais, ne partez... Encore une fois, et je pense que je conclurai quand même sur ce point, ne vous fixez pas d'objectifs. Voilà, que ce soit en tant que couple, on va pouvoir se répartir ça et l'allaitement, et ci et ça. Je pense que c'est un de mes gros problèmes, c'est de vouloir être beaucoup trop structuré et de vouloir trop savoir en avance où je vais dans une expérience de vie en fait que je ne connais absolument pas. J'étais partie sur des préacquis et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. Et je pense que je ne le ferai pas pour mes futurs enfants. Ce qui d'ailleurs embraye extrêmement bien avec mon troisième point, qui est, en tant que maman, vous ne détenez pas la vérité vraie. Pourquoi je dis ça? Parce que, je suis d'accord, il faut s'écouter, il faut avoir de l'intuition, il faut sentir les choses, mais il faut pas avoir le melon. Moi, je sais pas, je partais du principe que, comme j'étais la seule qui me documentait, comme j'étais la maman, comme j'avais mis cet enfant au monde, je savais mieux que tout le monde ce qui était bien pour cet enfant. Et malheureusement, c'est faux. Enfin, je veux dire, non, pas malheureusement, heureusement, c'est faux. Et ouais, je dirais qu'il faut s'écouter, mais avec modération et respect envers les autres. C'est-à-dire que les gens sont pas nécessairement des idiots qui vont essayer de concurrencer en fait vos propos. Ils vont essayer de vous aider et moi j'étais énormément sur la défensive. C'est vrai que je pensais savoir mieux que quiconque ce dont cet enfant avait besoin, alors que pas nécessairement. Par exemple, qui est un exemple encore une fois qui est véridique, c'est je crois que c'est quand Pierre il avait 4 mois, on lui donnait, il avait encore le slow flow. Et donc en fait, il commençait vraiment à prendre énormément de temps à boire son lait et un truc comme ça. Et moi, je commençais un petit peu à m'embêter, à me dire quand même, c'est pas normal, il refuse son biberon, ou alors il devient un peu fâché quand il boit, et puis ouais, qu'est-ce qui se passe quoi? Et Mac, il me dit, peut-être qu'il faudrait aller au medium flow. Et je commence à le regarder avec mes yeux de frigid bee, comme il m'appelait. Enfin oui, c'est comme ça, mais franchement, je le reconnais aujourd'hui, j'étais vraiment une frigide bee. Et ouais, je le regardais avec mes yeux de pouf condescendante à lui dire, non mais attends, cet enfant, okay, tu veux le noyer dans son lait, enfin je veux dire, il va s'étouffer si tu lui mets un medium flow et tatati et tatata. Donc en gros, j'étais en train de lui descendre son idée, mais plus bas que les égouts de Paris. Et en fait, j'ai lu après rapidement, et lui aussi a lu, parce qu'encore une fois, maintenant, il faisait les démarches de faire des recherches. Et il m'a prouvé par A plus B que non, il était temps de changer medium flow. On a mis une tétine medium flow. Et autant vous dire que Pierre, il a arrêté d'être fussy et qu'il a bu son truc. Il n'a pas eu de rejet ou quoi que ce soit. Et ouais, c'était la solution, en fait, idéale. Et ouais, c'est le genre de situation où tu te dis, non, en fait, il faut que tu redescendes un petit peu de ton nuage. Et que, ouais, il faut que tu écoutes les gens, parce que les gens sont pas nécessairement des idiots. Et franchement, c'est vrai que aujourd'hui, et heureusement, les pères prennent leur place de papa dans la famille, par rapport à nos aînés ou nos mères devaient globalement gérer tout par elles-mêmes, ou alors les grands-parents prenaient le backup. Moi, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir un conjoint qui est extrêmement impliqué dans l'éducation de notre enfant. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même ce courant en ce moment de... Enfin, j'y participe aussi, mais tu vois, de prendre pour partie que ton mari est nécessairement un idiot et que, oui, ils font les choses différemment, ils font les choses différemment de toi, mais c'est pas pour autant que c'est mal et c'est pas pour autant que C'est juste que c'est pas parce que c'est pas à ton level de standard que c'est mal fait en fait. Et Mike il me le répète, il me dit bah oui, enfin, je vais aller dehors, je vais avoir oublié un truc et puis ça va aller quoi. Et en fait on oublie que nos enfants ils ont une manière de s'adapter qui est absolument incroyable. Et c'est pas une mauvaise chose en fait qu'ils voient quelque chose qui soit différent de leur mère. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se dire je détiens la vérité vraie. Et franchement, le pauvre Mac, j'étais derrière son dos pendant 6 mois à le regarder faire, à commenter tout ce qu'il faisait. Dire ça tu fais mal, ça tu fais pas bien, moi j'aurais pas fait ça comme ci, moi j'aurais fait ça comme ça, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et, oh, et franchement, hein, s'il me faisait la moitié de ce que je lui ai fait, ouais, je pense que j'aurais divorcé. Et ouais, je pense qu'il a eu énormément de patience, que ce soit avec Pierre ou que ce soit avec moi. Et ouais, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que parfois, j'ai eu de la chance aussi qu'ils me remettent un peu les pendules à l'heure en me disant que tu es une frégide bille. Et c'est pas un mot que tu as envie d'entendre. Et ouais, beaucoup de fois, il m'a dit que j'étais controlling. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu te rends compte que tu as quelques petits défauts. Ou, je sais pas, des qualités que tu te dis, en fait, ouais, je suis quelqu'un de super organisé, j'aime bien mes fichiers Excel, mes trucs comme ça, et en fait, tu t'en rends pas compte, et ouais, tu deviens absolument impossible à vivre, enfin, qu'on se le dise. Moi, j'ai été impossible à vivre pendant, jusqu'à en février, jusqu'à ce voyage en Arizona, où vraiment, je vais tout vous dire, on avait pris l'avion. J'étais extrêmement stressée parce que c'était la première fois que Pierre allait prendre l'avion. Et je lui en ai mis plein la tronche. On est arrivé la nuit, il devait être minuit. Donc j'ai vite essayé d'installer Pierre pour le mettre au lit. Pierre ne voulait pas s'endormir parce que forcément c'était un nouvel endroit pour lui, il faisait froid. Et j'ai essayé de demander à Mac de l'aide. Et forcément, comme j'étais fatiguée, j'étais stressée, je lui demandais de l'aide, mais de manière extrêmement condescendante, alors qu'il venait de retrouver son frère et qu'il était en train de lui taper la discute, et que moi, en fait, j'étais « Ah, il est où le machin? Il est où le bidule? Ah, tu sais pas, tu sais rien. » Ouais, enfin, le genre de nana, vous savez très bien ce que ça peut être. Et ouais, je pense que cette nuit-là, on a eu un argument, ils appellent ça ici, je sais plus comment on dit, une dispute. Je crois que c'est la plus grosse dispute qu'on a eue dans notre couple. Et je crois que c'est là où on s'est dit waouh. Alors, on a deux options. C'est soit on arrête, ou soit on y travaille. Et par on, je veux dire j'y travaille. C'était très pénible, mais voilà, je pense que parfois vous avez besoin d'une. Vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Et là, je me suis pris un gros point. Je me suis pris. C'est pas une piqûre. Ça a été quelque chose. Et ouais, malheureusement, vous avez besoin parfois de ces rappels pour vous dire « Oh, on va tous se détendre et ça va aller mieux. » Et je pense qu'à partir du moment où vous avez l'ouverture d'esprit de vouloir arranger les choses, je pense que ça ne peut que aller. Et en fait, ça va arriver à mon dernier point, qui est vraiment pour moi le point le plus essentiel. C'est mettez absolument votre couple en priorité. Je sais qu'on entend souvent des mères dire « Moi, je peux pas, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit avec mon mari, c'est mes enfants, c'est mes enfants, c'est mes enfants. » En fait, on pense que l'essentiel dans une famille, c'est ce dont les enfants ont besoin, alors que pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, ce qui est fondamental pour qu'une famille aille bien, c'est les bases. Et les bases... Je n'ai pas fait ma tube, ma spé, hein. Je pense que pour faire des enfants, il faut être deux. Et c'est pour moi les routes, donc les racines d'une famille, ça reste ton couple. Et j'ai oublié en fait ça. Ouais, moi, ça a été extrêmement viscéral avec Pierre, encore une fois. Et ça a été dur en fait de laisser la place de papa à Mac. Je voulais tout faire toute seule, je vivais comme si j'étais une maman solo. Alors que pas du tout, et qui voulait prendre sa place, et je voulais pas lui laisser Pierre. Je vais pas le mentir. Ouais, j'ai de la chance parce que j'ai un mari qui est absolument formidable, qui a un papa incroyable. Et ouais, je m'en veux en fait de pas lui avoir laissé cette chance en fait dès le début de prendre ses marques. Et ouais, ça a été dur, mais j'ai pas envie de me donner des excuses parce que ouais, j'ai pas été sympa avec lui. Mais je pense que j'avais besoin de faire le deuil de ma grossesse. Enfin, moi je sais pas comment vous expliquer, mais Pierre, on a mis un an à l'avoir. Et quand on l'a eu, ça a été mais incroyable. Et ouais, je me suis mis en mode, mais ours. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte, j'étais en mode ours. Et quand il est né, j'étais encore... j'étais un ours brun, quoi. Enfin, et je voulais que rien n'aille en travers de mon enfant. Enfin, je veux dire, on avait tellement galéré pour l'avoir. Et il était là, il était en bonne santé. Et ouais, j'ai galéré à lui donner de la nourriture. Et en fait, je me rends compte que j'étais pas toute seule, en fait, dans cette expérience. Et que j'aurais dû largement... bien en avance et écouter mon mari et lui laisser sa place. Mais c'est juste que, vous voyez, c'est quand même compliqué. Et encore une fois, il faut pas partir avec des objectifs. Moi, j'étais persuadée que j'étais capable de déléguer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en étais pas capable. Et c'est important, en fait, de réaliser ça, de réaliser ses faiblesses. Et aujourd'hui, ça va, mais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et je pense que oui, c'est parce que on a systématiquement besoin de se remettre en question. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'arrête d'être derrière son dos. J'arrête de... Ouais, moi, quand c'est au tour de Mac de gérer Pierre, je m'enferme dans une autre chambre où je vais ailleurs et je les laisse tous les deux. Et c'est vital pour eux d'avoir ces moments entre papa et son fils, quoi. Et je sais très bien que si j'ai besoin d'aide, je vais pas aller rouspéter genre ah, il a pas pris les devants, il m'a pas aidé. Parce que franchement, et je pense que c'est quand même, ça va pas à l'encontre des pères, c'est simplement que je pense que les hommes n'ont pas la même façon de voir les choses que les femmes. Je vais essayer de le vulgariser en disant que une femme, elle va être extrêmement proactive sur les besoins de sa famille, alors qu'un homme va plus y aller en mode cool. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, il est 11h30. S'il est 11h30 du matin, moi je me dis il est 11h30, je commence à avoir faim, Pierre il va se réveiller, Mac il a nécessairement faim parce qu'il a tout le temps faim, donc je vais commencer à préparer le déjeuner. Mac il va être 11h30, il va arriver dans la cuisine, il va se prendre un snack, et à 3h il va se poser la question, peut-être qu'on va préparer le déjeuner. Ouais, enfin c'est des trucs comme ça, pas avoir le réflexe de se dire ah il est 11h30, j'ai faim, bah peut-être que Cindy a la faim, donc peut-être que je vais lui demander si elle veut manger un peu plus tôt. Non, c'est genre je vais dans la cuisine, je vais me prendre moi mon truc et puis peut-être qu'on mangera un peu plus tard. Et ouais, je pense qu'un mec va pas nécessairement se poser ces questions là enfin, comme me répond souvent Max, c'est pas c'est pas la première pensée qui lui vient en tête, donc faut juste accepter. Et ouais. Et je conclurai quand même en disant que ouais, pour moi, s'il y a un conseil que je peux offrir par le biais de ce podcast, c'est n'oubliez pas votre couple. Moi, je suis tellement contente de partager ma vie avec un mec aussi sympa que Mac et aussi... Oh, j'ai pas envie de lui jeter tant de fleurs que ça, mais parce que j'ai pas envie de paraître niaise, mais je sais qu'on s'aime énormément, je sais qu'on se respecte énormément, je sais qu'on... On se valorise énormément à se rappeler qu'on se tire l'un et l'autre vers le haut. Et je pense que c'est nécessaire quand tu deviens parent de ne pas oublier l'individu en fait que tu aimes. Je le répète pas assez, mais prenez-vous une nanny, on sait très bien. Et oui, c'est chiant. Et combien de fois j'entends oui, une nanny c'est cher et donc du coup forcément ta soirée elle te coûte cher. C'est clair. Mais tout autant que tous les petits gadgets, tous les petits jouets à la con que ton fils il va pas utiliser, ou je sais pas, ton jean chez Melvoir qui va te coûter 100 balles. Voilà, moi aujourd'hui j'achète moins de fringues, je prends une nanny, je vais au cinéma, je vais faire un dîner avec Mac. Oui, au début, nécessairement, on parle que de Pierre. mais nécessairement que de lui. Tac, 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 ça dure, je pense, 2 mois. Tu parles que lui, que lui, que lui. Et progressivement, tu recommences à avoir des conversations de couple. Tu commences à reposer la question, alors quels sont tes projets, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, Mac, il est développeur, mais à côté, il veut écrire un livre pour enfants. Il veut faire un film. Il veut faire un nouveau jeu de réalité virtuelle. Il veut faire... Ouais, c'est inspirant de vivre avec un mec comme ça. Et ouais, je vais conclure en disant que lui, pour mon anniversaire, c'est lui qui m'a offert un micro. Il m'a offert un casque. Il m'a offert un trépied. Il m'a dit, ok, enfin, tu m'as parlé que tu voulais faire un podcast. Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et il a tout le temps été comme ça. Il a toujours essayé de me pousser, 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 pousser. Et donc, ouais, ça va prendre du temps de reprendre ces marques de couple. Mais c'est nécessaire. C'est vraiment... c'est nécessaire. Et ouais, c'est ça, en fait, qui a été assez dur. C'est de se dire, on a quand même fait un enfant pour... parce qu'on s'aime et qu'on veut porter le fruit, entre guillemets, de notre amour. C'est vrai que c'est totalement narcissique, mais c'est la réalité de la raison pour laquelle on fait des enfants. Et de se dire que c'est ce petit être qui est la belle beauté de nous deux est en train de nous détruire. Mais ouais, de se dire, ouais, je veux pas que cet petit individu détruise mon couple et j'ai envie qu'il le solidifie et j'ai envie qu'on passe notre vie ensemble. Et je pense que, ouais, c'est notre goal. Et j'ai hâte, en fait, d'étendre la famille un petit peu plus. Donc... Non, voilà, c'était à peu près... c'était mes points. Voilà, j'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux. Et j'espère pouvoir aider des futurs parents qui se posent des questions. Moi, je vous souhaite... ouais, je vous souhaite une très bonne journée, fin de matinée, tout ce que vous voulez. Une bonne bière. Et je vous retrouve à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao !